à l'endroit même où se trouve établi le siège de Saint-Pierre et la chaire de la vérité pour éclairer les hommes, ils ont placé le trône abominable de leur impiété, de sorte qu'une fois que le pasteur sera blessé, ils puissent aussi disperser les brebis. Ce passage de l'exorcisme promulgué par le pape Léon XIII au siècle dernier nous aide à comprendre et expliquer l'état actuel de l'Église. Comment la tourmente à laquelle nous assistons aujourd'hui a-t-elle commencé ? L'Église, autrefois, a connu de remarquables temps de paix, pendant lesquels la société respectait les droits de Dieu. Servir, honorer Jésus-Christ n'était pas réservé au seul clergé. Le roi, ses fidèles, toutes les nations, le monde entier se disait chrétien. En un mot, l'esprit de laïcisme n'existait pas. C'était l'ordre chrétien, particulièrement dans ce temps historique que l'on appelle communément l'époque médiévale. Le règne social de Jésus-Christ fut donc une réalité. Le pouvoir ecclésiastique, le pouvoir civil collaboraient étroitement en tant que représentants de notre Seigneur. Le Christ était roi non seulement des âmes, mais aussi des nations et de leurs institutions. La mission salvatrice de l'Église était soutenue par l'État chrétien, certes avec les faiblesses et les imperfections que l'humanité charriera toujours. Vers la fin du XIVe siècle, s'ouvre une nouvelle ère, appelée communément la Renaissance. C'est une rupture avec le passé, tantôt sournoise, tantôt ouverte, sous prétexte de retourner à l'Antiquité. Le paganisme s'infiltre dans la littérature, dans les arts. La soif de plaire s'empare des esprits éminents de l'époque, les humanistes. Avec l'imprimerie, découverte dans la deuxième partie du XVe siècle, les nouvelles idées, une nouvelle conception de la vie se répand dans tout l'Occident. Les humanistes exaltent la bonté et la force de la nature, et ils oublient le péché originel. Avec lui, tout l'idéal de renoncement, d'abnégation, d'ascèse chrétienne est ridiculisé. Erasme de Rotterdam, le prince des humanistes, s'entend en particulier pour relativiser les vérités et les dogmes chrétiens. Malheureusement, en face de lui, le clergé connaît une crise qui l'empêche de réagir à ses attaques. Cette différence d'esprit est évidente, par exemple, à travers cette même scène de la vie de Notre-Dame, peinte par un artiste médiéval, d'une part, et le Caravage de la Renaissance. On donne un goût naturaliste aux thèmes artistiques, même les plus chrétiens. Et par conséquent, l'exaltation de la chair affaiblit considérablement le catholicisme. Ce relâchement des mœurs et des idées fraye la voie à l'hérésie protestante. Le 31 octobre 1517, Luther fixe sur les portes de la cathédrale de Wittenberg un placard de 95 thèses théologiques où il attaque la doctrine des indulgences, la pénitence, les vœux de religion, les saints, les sacrements, le libre arbitre, le salut par les œuvres. Rome réagit lentement. Léon X, un pape de la Renaissance, finit par condamner l'hérésiarque en juin 1520 avec la bulle Exsurge Domini. C'est trop tard. Le protestantisme a déjà gagné une bonne partie de l'Allemagne. Il va se propager dans toute l'Europe, comme la peste, la Scandinavie, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Hollande, l'Angleterre de Henri VIII, l'Autriche, la Suisse. La nouvelle religion s'impose par la force soutenue par des princes gagnés à ces nouvelles idées. C'est le début des guerres de religion. Luther, soutenu par de chauds partisans comme Mélenchon, mais aussi rapidement dépassé par des hérésiarques comme Zwingli, Calvin, a mis le feu à la chrétienté. L'Église catholique se dresse contre cette tourmente. De grandes figures fondent de nouvelles sociétés religieuses. La Compagnie de Jésus est la plus célèbre. Les missionnaires sillonnent le monde, regagnent le terrain perdu, portent la croix sur des rivages inconnus. Saint François Xavier est l'apôtre des Indes et de l'Extrême-Orient. Au milieu du XVIe siècle, le Concile de Trente réforme l'Église dans son ensemble. La crise est surmontée. Le protestantisme demeure cependant un danger pour l'Église dans les siècles à venir. Et c'est de lui que va naître au milieu du XVIIe siècle une nouvelle société, la franc-maçonnerie. C'est d'Angleterre et d'Écosse que la freemasonerie, c'est-à-dire la maçonnerie libre qui deviendra la franche maçonnerie en français, d'où le franc-maçon, c'est d'Angleterre qu'elle prend son essor. Qu'elle connaît ses premières organisations, ses premières structures en 1717. Société secrète, agissant dans l'ombre, cachant ses buts même à ses adeptes, la franc-maçonnerie va être rapidement découverte, stigmatisée et condamnée par tous les papes. En 1738, Clément XII excommunie tous les adeptes de ces sociétés occultes. Benoît XIV renouvelle la condamnation au milieu du XVIIIe siècle. Pie VII les dénonce en 1821. Léon XII découvre les plans de ces sectes qui veulent pervertir la jeunesse. Pie VIII, Pie IX, Léon XIII dans sa grande encyclique Humanum Genum en 1884. En un siècle et demi, écrit Léon XIII, la secte des francs-maçons a fait des progrès inimaginables. Elle a envahi tous les rangs de la hiérarchie sociale. L'esprit maçonnique, c'est l'esprit de la fraternité humaine. C'est l'esprit du progrès humain. C'est l'esprit d'un monde sans Dieu, ou au moins sans Dieu chrétien, sans Trinité. C'est là le reproche qu'il avait fait essentiellement. Dans les loges se rassemblent les hommes de toutes les religions, sans distinction de doctrine, sans vérité. Les documents secrets des Carbonari, secte maçonnique du XIXe siècle, tombent dans les mains du pape Grégoire XVI et sont publiés en 1859 par Crétineau Joly. Pie IX confirmera même leur authenticité le 25 février 1861. Il révèle que la maçonnerie veut pénétrer l'Église, pénétrer la hiérarchie même. Lancez vos filets comme le fit Simon Bar-Yona. Lancez-les au fond des sacristies, des séminaires et des couvents. Nous vous promettons une pêche plus miraculeuse que la sienne. En quelques années, disent ces documents secrets, le jeune clergé aura par la force des choses envahi tous les postes. C'est lui qui gouvernera, qui administrera, qui jugera, qui formera le conseil du souverain, qui sera appelé à élire le pontife devant régner. Ce que nous autres nous devons rechercher et attendre, concluent les Carbonari, de même que les Juifs attendent le Messie, c'est un pape selon nos besoins. Les francs-maçons répandent leurs idées, se proposent de mettre en place un ordre dans le monde, un nouvel ordre du monde. Déjà, les idées maçonniques ont modifié l'ordre politique et social. La révolution de 1789 en est directement inspirée. Son triptyque « liberté, égalité, fraternité » remplace l'alliance du trône et de l'autel, la primauté du Christ, la grâce surnaturelle. Désormais, la raison est érigée en divinité. C'est elle qui devra juger de tout, supérieure à toute autorité, serait-ce même celle de Jésus-Christ. L'homme, en tant que tel, est maintenant considéré comme l'axe de l'univers. Ce sera, lui, le point de départ et la fin de toute chose. La Révolution applique la vieille idée de la Renaissance, renouvelée par Jean-Jacques Rousseau. L'homme est bon par nature. On lui donne alors toute liberté. Une liberté sans bornes. Liberté de pensée, d'action, liberté religieuse, liberté de presse. Liberté de penser ce que bon lui semble. Liberté, finalement, liberté de péché, que l'on appelle le libertinage. C'est une rébellion contre le joug de notre Seigneur Jésus-Christ, incarné dans toute autorité. Il n'y a pas d'autre pouvoir qui ne vienne de Dieu, dit saint Paul. Par ailleurs, l'égalité, la fraternité remplacent la justice et la charité qui soutenaient l'ordre chrétien. Mais surtout, la Révolution française supprime cette union étroite entre le temporel et le spirituel. La monarchie mise à bas en 1792, c'est la fin de l'État confessionnel. L'Église se retrouve désarmée, privée de son bras séculier, privée de ses droits, privée de son rayonnement politique et social. Le XIXe siècle répand dans toute l'Europe ses idéaux révolutionnaires. Les papes se dresseront, condamneront jusqu'au milieu du XXe siècle. Benoît XV, dans l'encyclique Annoiam Exeunte, disait « Depuis son origine, on peut affirmer que l'Église n'a jamais connu un danger tel que celui qui est apparu à la fin du XVIIIe siècle. » Et déjà, de telles idées pénètrent même dans l'Église. Un prêtre, Félicité de Lamennais, cherchant à justifier le libéralisme par le mythe de ce que l'on appelle le progrès de l'humanité, affirme que les peuples en d'autres temps avaient besoin de la tutelle de l'Église. Mais maintenant, au fil des siècles, ils sont parvenus à un âge adulte. L'Église, dit-il, n'a plus besoin que d'une seule chose, la liberté. Ainsi sont mis sur un même pied d'égalité la vérité et les erreurs, l'Église catholique, et les fausses religions et les autres sectes. Les droits de la vérité ont été ôtés, diminués, une totale liberté est donnée à l'erreur. Cette attitude engendre l'indifférentisme religieux. Grégoire XVI, dans son encyclique Mirari Vos, le 15 août 1832, condamne cet indifférentisme. La liberté de conscience, la séparation de l'Église et de l'État, l'État laïque lui-même, l'amenait révolté, abandonne l'Église. Ses idées sont reprises, amplifiées. Au début du XXe siècle, Marc Sangnier, dans sa revue Le Sillon, prétend de nouveau réaliser cette réconciliation entre l'Église et la Révolution. Saint Pie X, le 25 août 1910, condamne dans sa lettre Notre charge apostolique cette nouvelle tentative. Il écrit: que faut-il penser d'une association où toutes les religions et même la libre pensée peuvent se manifester hautement à leur aise? Le pape continue: le sillon ne forme plus dorénavant qu'un misérable affluent du grand mouvement d'apostasie organisé dans tous les pays pour l'établissement d'une Église universelle qui n'aura ni dogme, ni hiérarchie, ni règle pour l'esprit, ni frein pour les passions. Au début du XXe siècle, une nouvelle tendance appelée modernisme se développe aussi dans l'Église. Appuyée sur la philosophie kantienne, sur les erreurs de Hegel, cette doctrine rejette toute connaissance et affirme que notre âme porte en elle-même toutes les vérités religieuses d'une façon évolutive. Agnosticisme et immanentisme. Voilà les forces du modernisme. Les conséquences sont désastreuses. La révélation devient le produit de l'imagination humaine. Les vérités ne sont plus immuables. La Sainte Écriture est sujette à l'erreur. La science contredit la foi. Loisy, le roi, et d'autres encore, diffusent ces erreurs en France, en Italie et dans d'autres pays. Le pape Pie X combat ce modernisme. Le 7 septembre 1907, dans l'encyclique Pascendi, il le démasque, le condamne. Il établit en 1910 pour tous les prêtres un serment, le serment antimoderniste, par lequel il s'engage solennellement à professer la vérité catholique, à dénoncer les erreurs modernes. Le modernisme vide le christianisme de toute sa substance. Toute religion, dit-il, n'est qu'une simple manifestation, n'est qu'une construction historique du sentiment religieux. Toute religion est donc bonne en elle-même à partir du moment où elle existe. Le catholicisme n'est pas différent des autres sociétés religieuses. Son fondateur n'est pas Dieu, ce n'est qu'un homme inspiré comme Bouddha ou Confucius. Le sentiment religieux, parce qu'il n'est que sentiment, peut être en perpétuelle évolution. Ainsi, le modernisme considère que toute évolution est signe de la vie et signe de la vérité d'une religion. L'incertitude, le doute, remplace la vérité. Très justement, Saint-Pédis appelle le modernisme l'égout collecteur, le cloaque de toutes les hérésies. Puissamment soutenu par une phalange de saints prêtres, le cardinal secrétaire d'État, Mgr Méridelval, le cardinal de Lailles, le père Cormier, général des dominicains, Saint-Pédis se dresse contre le modernisme. Plusieurs dizaines de prêtres quittent l'église ou sont excommuniés. Monseigneur Umberto Benigni, avec une association catholique secrète, le Sodalitium Pianum, surveille toute infiltration d'esprit moderniste dans la hiérarchie. Mais l'Europe en pleine crise se déchire. C'est la Première Guerre mondiale et Saint-Pédis, de tristesse, s'éteint le 20 août 1914 sans avoir pu totalement éradiquer l'erreur au sein de l'Église. Les modernistes se dissimulent dans l'Église, mais n'abandonnent pas le combat, malgré le renouvellement des condamnations par les papes successeurs de Saint-Pédis, Benoît XV ou Pie XI, qui, à l'occasion de l'institution de la fête du Christ-Roi, rappelle au monde dans sa lettre Quas Primas du 11 décembre 1925 la doctrine traditionnelle de l'Église sur le règne du Christ-Roi. Puis Pie XII, dans son encyclique Humani Generis après la Seconde Guerre mondiale, de nouveau, donne un solennel avertissement contre les erreurs du modernisme. Il interdit d'enseignement des théologiens comme le père de Lubac, Danielou, Karl Rahner, Chenu, Congar et Teilhard de Chardin. Ce jésuite affirme, au nom d'une fausse science et mystique, que la matière devient esprit, que l'humanité entière évolue vers le Christ, point oméga de l'univers. Avec lui, Jacques Maritain lance la thèse de la société vitalement chrétienne. L'Église catholique doit parvenir à renoncer à la protection des États et se contenter dorénavant d'une simple liberté d'action, simple autonomie, qui servira à sa plus grande diffusion. Avec l'évolutionnisme de Teilhard de Chardin et le laïcisme de Jacques Maritain, c'est de nouveau le refus du règne de Jésus-Christ sur la société et donc sur les âmes. Mais le modernisme s'applique pratiquement dans la liturgie. Le pape Pie XII, dans l'encyclique Mediator Dei, met en relief la valeur de la liturgie traditionnelle de l'Église, mais condamne des nouveautés pernicieuses. Il faut cependant, écrit-il, réprouver l'audace téméraire de ceux qui introduisent de nouvelles mœurs liturgiques ou font revivre des rites déjà tombés en désuétude. Par exemple, celui qui voudrait rendre à l'autel sa forme primitive de table sortirait du droit chemin, ainsi que celui qui voudrait supprimer la couleur noire des ornements liturgiques ou qui ôterait des temples les statues sacrées. Or, ajoute-t-il, actuellement, certains, en se rapprochant d'erreurs déjà condamnées, soutiennent que le peuple jouit d'un véritable pouvoir sacerdotal, alors que le prêtre agit uniquement en raison d'un rôle qui lui est délégué par la communauté. Cette tendance se nomme l'archéologisme. Un audacieux et brutal retour à des rites liturgiques d'époque très ancienne, supprimée par l'Église. Donc à seul, un des membres influents du mouvement liturgique répand, malgré tout, ses idées, ses pratiques. Les cérémonies perdent leur caractère sacré. On insiste sur la primauté de la parole. On encourage une participation active. On insiste sur le repas, on oublie le sacrifice. Dont Lambert Baudouin soutenu par Chenu, Louis Bouillet, le père Duployé, Doncoeur, Danielou et beaucoup d'autres, se trouve parmi les promoteurs de ces idées. L'Église qui jusque-là avait résisté aux attaques de la Renaissance, du protestantisme, de la franc-maçonnerie, de la Révolution française, du libéralisme, voilà que l'Église perd pied face au modernisme. Le siège de la contre-Église se resserre autour de la Cité de Dieu. Abandonnée par les États, affaiblie par 200 ans de culture libérale, travaillée de l'intérieur par les loges, la civilisation chrétienne s'effrite. Le modernisme poursuit son chemin malgré la condamnation des papes. Saint Pidis le prophétisait déjà dans Pachendi. Vous n'ignorez pas, vénérable frère, la stérilité de vos efforts. S'il baisse la tête quelque temps, ce n'est que pour la relever immédiatement après avec encore plus d'orgueil. Ennemis de l'Église, ils le sont certainement, ce n'est pas du dehors, mais de l'intérieur qu'ils trament sa ruine. Ils veulent rester dans le sein de l'Église pour travailler en elle et de la sorte modifier en elle peu à peu la conscience commune. Le 9 octobre 1958, le pape Pie XII rend son âme à Dieu. Au même moment, Don Lambert Baudouin, ami du cardinal Roncalli, disait au père Bouillet « S'ils élisaient Roncalli, tout serait sauvé. Ce dernier serait capable de convoquer un concile et de consacrer l'œcuménisme. » Le 28 octobre, les cardinaux élisaient Roncalli sous le nom de Jean XXIII. Contre toute attente, Jean XXIII annonce le 25 janvier 1959 sa volonté de convoquer un concile œcuménique, un concile universel. Il veut lui donner comme trait fondamental l'aggiornamento, c'est-à-dire la mise à neuf, le renouvellement du christianisme. Pie XI et Pie XII avaient envisagé de convoquer des conciles et chaque fois avaient reculé devant les dangers qu'une telle assemblée pouvait représenter. Ce serait un concile tenu sur la place publique, avait dit le cardinal Billot. Les divisions entre les théologiens à l'intérieur même de l'Église seraient mises en évidence. On risquait la révolution. Jean XXIII, malgré tout, voulut mener à bien un concile rapide, un concile triomphant. Et le 11 octobre 1962, les évêques du monde entier, près de 2000 pères conciliaires, prirent place dans la basilique Saint-Pierre. Le concile avait été minutieusement préparé. 72 documents ou schémas doctrinaux préparatoires étaient proposés aux évêques. l'assemblée les refusa tous, sans exception, les renvoyant à des commissions conciliaires pour retravailler totalement les textes. Leurs membres furent élus dès la première semaine par tous les évêques. Le Saint-Siège proposa des listes de théologiens qui avaient préparé le concile. Mais le cardinal Liénard fit pression sur l'assemblée qui les refusa. Alors, les évêques d'esprit progressiste regroupés dans l'Alliance européenne présentèrent leur candidature et furent élus en majorité. Ils occupent les deux tiers des places et rédigent les schémas avec l'aide de théologiens jadis écartés sous le pontificat de Pie XII. Le dominicain Congar, Leclerc, Murphy, Karl Rahner, Küng, Schilbeck, Besnay, Cardonnel et aussi le père Chenu, l'un des plus influents. Ces schémas ne seront pas orientés dans le sens de la doctrine catholique. À côté du concile, une campagne de presse diffuse ces nouvelles idées. Les informations catholiques internationales, la documentation catholique, l'IDOC et jusqu'à des périodiques comme Paris Match inondent les évêques chaque jour de nouvelles études, de pamphlets, de libelles. Plus de 4 millions de publications pendant le concile. Jean XXIII voulait un concile rapide. Avec tous ces changements, il n'en est plus question. Il durera jusqu'en 1965, étalé sur 4 sessions de 3 mois chacune. À Jean XXIII, décédé en juin 1963, succède Paul VI qui poursuit son œuvre. Le Concile Vatican II se présente comme un concile pastoral, c'est-à-dire qui ne définit aucune vérité de foi. Il ne donne que des orientations, des dispositions de l'Église dans la situation nouvelle qu'est le monde contemporain. Le Concile se veut être à l'écoute des signes de notre temps. C'est pourquoi plusieurs des textes du Concile comportent de graves ambiguïtés. Le père Schilbeck les explique ainsi. « Nous avons introduit des mots équivoques dans le Concile, et nous savions bien les avantages que nous en tirerions par la suite. » Ces avantages sont tous dans un sens progressiste. Ainsi, le Concile refusera d'aborder le thème du communisme, pourtant présent sur la moitié de la planète à l'époque. Et cela, malgré la demande de 450 évêques traditionnels pour qu'il fût condamné. À la minorité libérale qui domine le concile, évêques américains, français, hollandais, s'oppose une minorité d'évêques italiens, espagnols, latino-américains surtout. Ils forment le Cetus Internationalis Patrum. 450 pères conciliaires adhèrent à cette organisation. Monseigneur Marcel Lefebvre, Monseigneur de Prensa Sigo, Monseigneur de Castromeyer. Un véritable combat se déroule au cœur du concile. Par exemple, le schéma sur la liberté religieuse fut rejeté à 5 reprises. Il réapparut 5 fois jusqu'à ce qu'il finît par être accepté. Dans ce combat, l'appui des papes, l'organisation et les moyens financiers des libéraux furent décisifs. Il faut aussi souligner l'influence d'observateurs non catholiques, des orthodoxes, des protestants, des laïcs ou des athées invités par le pape Paul VI lui-même. En résumé, le Concile Vatican II ouvre les portes aux idées libérales des deux derniers siècles. Le sénateur Prélot, dans son livre « Le catholicisme libéral » le révèle. Nous avions lutté un siècle et demi durant pour que nos idées prédominent à l'intérieur de l'Église, et nous n'y étions pas parvenus. Mais nous avons enfin, avec l'arrivée du Concile Vatican II, triomphé. Dorénavant, les thèses et principes du catholicisme libéral sont définitivement et officiellement acceptés par la Sainte Église. 7 décembre 1969. Discours du pape Paul VI. L'Église se trouve dans un moment d'inquiétude, d'autocritique, et on pourrait même dire d'autodestruction. C'est comme un bouleversement intérieur, aigu et complexe. C'est comme si l'Église se frappait elle-même. 29 juin 1972, en la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. La fumée de Satan est entrée par quelques fissures dans le temple de Dieu. La problématique, l'inquiétude, l'insatisfaction, l'affrontement sont devenus manifestes. Le doute a pénétré dans nos consciences. Dans de nombreux domaines, le Concile ne nous a donné, jusqu'à présent, aucune tranquillité. Il a plutôt suscité des agitations et des problèmes, gênant le renforcement du règne de Dieu sur l'Église et dans les âmes. Ces paroles de Paul VI paraissent étonnantes après l'enthousiasme suscité par le Concile Vatican II. La confusion semble avoir succédé à la paisible possession de la vérité, à la tradition. La tradition de l'Église, c'est ce qui en fait sa force. Benoît XV, reprenant les paroles de son prédécesseur, saint Étienne Ier, disait en novembre 1914 « Nous voulons que la règle de nos pères reste sacrée. Nihil innovetur, nisi quod traditum est. » C'est-à-dire que rien ne soit modifié si ce n'est dans le sens de la tradition. Traditio, en latin, signifie transmission. La transmission de génération en génération d'un ensemble d'enseignements du dépôt de la foi livré par Jésus-Christ. Et cette tradition a été placée entre les mains des ministres par la volonté de Jésus-Christ au fondement de son Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Les papes, tous les conciles œcuméniques, depuis le premier de Jérusalem, tous ont transmis ce dépôt de la foi jusqu'au concile Vatican I en 1870. Dans leurs enseignements, dans leurs prescriptions, dans leurs décisions, ils ne firent que conserver, protéger cette foi de l'Église. Ils l'exposent plus clairement, ils l'appliquent de façon plus efficace, ils la préservent des déviations humaines, ils l'explicitent. Mais jamais ils n'osèrent la changer, la modifier, ou même ajouter quelque chose de nouveau. L'Église, donc, en tant que telle, c'est une tradition qui subsiste depuis Jésus-Christ jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin des temps. Face à elle, le monde moderne cherche toujours la vérité. En perpétuelle évolution, avec des progrès réels ou apparents, il ne cesse de fasciner ceux dont l'oreille les démange, selon les paroles de saint Paul. Et pourtant, il est toujours à la recherche de la vérité. Il ne saurait en reconnaître d'ailleurs d'absolu et de fixe. Il se tient pour adulte et donc capable de juger et de tout remettre en question. Par principe, il est indifférent à Dieu et à toute religion. Ou plus exactement, il n'en a qu'une seule, c'est la religion de l'homme, la religion des droits de l'homme. Mais le pape Paul VI n'hésita pas à accepter ce monde moderne tel qu'il est. Lors de la dernière session du Concile, en décembre 1965, il expliqua l'intérêt que l'Église portait à la spiritualité de l'homme moderne. Il ajouta que l'Église éprouvait pour cet homme moderne une sympathie sans bornes, et que lui, Paul VI, était partisan d'un nouvel humanisme. Le premier théologien de l'Église, le cardinal Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, affirme la même chose. Le problème des années 60, dit-il en 1984, était l'acquisition des meilleures valeurs exprimées pendant deux siècles de culture libérale. Ainsi, le monde moderne a été accepté par l'Église de Vatican II. Et de fait, depuis une quarantaine d'années, les âmes consacrées se sont sécularisées, abandonnant l'habit ecclésiastique, prenant les modes de vie, les divertissements, les occupations des gens du monde. Le pape Jean-Paul II au sport d'hiver en 1988. L'Église ne convertit plus le monde, elle dialogue avec lui. Elle s'ouvre au monde. Ainsi s'expliquent les multiples contacts que les papes de la fin du siècle, Paul VI et Jean-Paul II, ont pu avoir avec des personnalités médiatiques, politiques, culturelles, dont les engagements acatholiques ou même anticatholiques étaient évidents. Ainsi, Hassan II, roi musulman, Arafat, le terroriste palestinien, les membres de la trilatérale société maçonnique reçue au Vatican le 18 avril 1983, ou même encore les Bnaï Brit, visite que Jean-Paul II qualifia de réconciliation entre les frères en mars 1984. Autant de personnes excommuniées et dont l'apôtre Saint Jean nous dit de fuir la compagnie. Si quelqu'un vient à vous et qu'il ne porte pas en lui la doctrine du Christ, ne le recevez pas chez vous et ne le saluez pas. Non pas par impolitesse, mais pour éviter d'être mal influencé par lui. Golda Meir, ici avec le pape Paul VI. Une caractéristique fondamentale du Concile Vatican II fut l'œcuménisme. Plusieurs documents portent sa trace, en particulier Unitatis Redintegratio et Nostra Aetate. Le Concile Vatican II est un concile œcuménique. Mais l'œcuménisme dont il se réclame et qui a été exposé dans des textes comme Unitatis Redintegratio et Nostra Aetate est un œcuménisme nouvelle formule, pourrait-on dire. Car l'Église catholique a toujours été œcuménique, c'est-à-dire elle s'est toujours efforcée de ramener au bercail toutes les brebis égarées dans le monde entier. Or, depuis le Concile, le terme d'œcuménisme a changé de sens. Il s'agit maintenant de nouer une amitié avec toutes les religions. D'abord les frères séparés, les plus proches, les orthodoxes, les anglicans, tous les chrétiens. Puis les religions païennes, l'islam, les juifs. Or, la première des amitiés, c'est de faire la charité de la vérité. De la vérité qui convertit vers notre Seigneur Jésus-Christ. Qui convertit à notre Seigneur Jésus-Christ. De nombreuses réunions œcuméniques ont été tenues afin de découvrir dans les autres religions des valeurs de salut. Ainsi, au niveau des évêques, par exemple, l'évêque évangéliste Édouard Loos, l'évêque catholique de Berlin, Martin Cruz, et l'évêque catholique Schelle. Le pape Jean-Paul II lui-même a été reçu au Conseil œcuménique des Églises, à côté des représentants de diverses confessions chrétiennes. Au niveau local même, des bénédictins catholiques du Bec et Loin sont allés chanter la liturgie dans l'église luthérienne des Billettes à Paris. Ces réunions œcuméniques se sont multipliées après le concile. Paul VI, le premier, rencontra Michael Ramsay, archevêque primat de l'église anglicane, en mars 1966, à Rome. À cette occasion, ils firent tous deux une déclaration commune sur la collaboration entre catholiques et anglicans. Paul VI alla jusqu'à lui confier son anneau pastoral, l'anneau du pêcheur, qui exprime sa juridiction universelle. Et ensemble, anglicans et catholiques, ils bénirent les cardinaux et les fidèles présents. En juin 69, Paul VI visite le Conseil national des Églises. Puis c'est le Dalai Lama, un dieu vivant selon les bouddhistes, qui est accueilli par le pape. Dès son élection au souverain pontificat, Jean-Paul II continua la politique œcuménique de Paul VI. En novembre 1979, il rencontre Dimitrius Ier à Constantinople. Tous les deux feront une déclaration commune. Puis, en 1982, il visite Canterbury, le siège de l'église anglicane, assiste à un office religieux. Et, avec l'archevêque protestant Runcie, une déclaration commune est établie, dans laquelle on se propose d'étudier tout ce qui fait obstacle à la réconciliation réciproque. Or, le pape Pie XI, dans l'encyclique Mortalium Animos, faisant allusion à ce type de réunion œcuménique, écrivait « De telles tentatives ne peuvent en aucune façon obtenir l'approbation des catholiques. Vu ce qu'il en est, il est clair que le siège apostolique ne peut en aucune façon participer à ces congrès. Les catholiques ne peuvent nullement promouvoir ou coopérer à de tels essais, et si c'était le cas, il donnerait autorité à une fausse religion chrétienne, totalement étrangère à l'unique vraie religion du Christ. » Jean-Paul II visita l'église luthérienne de Rome le 11 décembre 1983 pour le 500e anniversaire de la naissance de Luther. Ce scandale pour le monde catholique n'empêcha pas le pape de prêcher à la suite du pasteur Meyer et de réciter une prière composée par Luther. L'œcuménisme envers le judaïsme aussi ne connaît pas de limite. Tout ce qui nous différenciait de lui est passé sous silence. Dans la déclaration conciliaire Nostra Aetate, cette nouvelle orientation s'est affirmée en contradiction avec la doctrine de la papauté et des pères de l'Église. Le 24 juin 1985, un document officiel du Vatican invita les chrétiens à s'unir aux Juifs dans l'attente du Messie, sans préciser que le Messie, Jésus-Christ, est déjà venu il y a 2000 ans. Quelques mois plus tard, Jean-Paul II avec le comité des relations entre l'Église catholique et les Juifs. Surtout fut très remarquée la visite que le pape adressa à la synagogue de Rome le 13 avril 1986. Jean-Paul II donna l'accolade fraternelle au rabbin Eliotov. Tous deux s'assirent sur des fauteuils identiques. Et après le discours du rabbin, Jean-Paul II tint des déclarations étonnantes. La religion juive, dit-il, ne nous est pas extrinsèque, mais en quelque sorte intrinsèque. Vous êtes nos frères préférés, et on pourrait dire en quelque sorte nos frères aînés. On ne peut accuser les Juifs, en tant que peuple, d'aucune faute héréditaire lors de la passion du Christ. Et le pape encourage à reconnaître toujours davantage ce lien et ce patrimoine spirituel commun qui existe entre Juifs et chrétiens. Le pape rappelle enfin la déclaration de mai 1985 signée par le président de la Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme, le cardinal Wilbrand. Nous catholiques, nous devrions assumer notre responsabilité dans la préparation du monde à la venue du Messie, en travaillant ensemble avec les Juifs pour la justice sociale, le respect des droits de l'homme et des nations. Il importe de rappeler que le rôle principal d'Israël fut de préparer la venue du Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. L'Ancien Testament a été édicté à cette fin. Malheureusement, à la venue du Messie, les représentants de la synagogue ont, comme il est rapporté dans tous les évangiles, poussé Pilate à crucifier Jésus-Christ, rejetant ainsi le Sauveur et son Père. Hors de l'Église du Christ, unique arche de salut, ils se sont éloignés de la vérité. L'Église catholique a toujours prié pour leur conversion. Justement parce qu'ils ne sont pas nos frères, ni nos frères aînés. On ne peut en aucune façon qualifier de vieux préjugés les enseignements que donna l'Église à ce sujet pendant 20 siècles. Toutes ces rencontres qui passent sous silence les différences entre les religions ne peuvent aboutir qu'à un échec. Ni la gloire de Dieu, ni le salut des âmes ne sont assurés. En effet, de même qu'il n'existe qu'un seul Dieu, il n'est qu'une seule religion. Les autres, inventées par les hommes, ne peuvent en aucune manière être des moyens de salut, des moyens de rendre honneur à Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit aux apôtres « Allez à travers le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Ainsi, l'Église a un devoir d'édification de tous les hommes, qu'ils soient catholiques ou qu'ils ne le soient pas. Prêcher la vérité, dénoncer l'erreur, mettre sur la voie du salut ceux qui errent encore dans les ténèbres. Elle doit donc s'affirmer comme seule arche du salut et éviter de se mettre sur le même plan que les autres sociétés religieuses. Voilà le plus grand bien qu'on puisse leur faire. Pie IX, le 16 septembre 1864, interdisait aux Anglais l'entrée dans une société pour la réunion de tous les chrétiens, société d'origine protestante, parce que celle-ci préconisait une union sans conversion à l'Église catholique. On mesure le chemin parcouru lorsque l'on sait qu'en octobre 1984, les églises européennes se réunirent dans la cathédrale de Trente, en Italie. Un point sensible de l'affrontement entre progressistes et traditionnalistes au Concile fut la liberté religieuse. Déjà, avant même la convocation, la commission préparatoire du Concile Vatican II s'était divisée sur la question. Deux schémas ont été présentés relatifs à un même problème. L'un, par le cardinal Ottaviani, porte sur la tolérance religieuse. Il expose la doctrine de l'Église qui enseigne que les autres religions ne jouissent d'aucun droit positif dans la société. Elles sont tolérées pour des raisons graves. Elles ne peuvent être en aucun cas encouragées. Le deuxième schéma du cardinal Béa renfermait des affirmations qui s'écartaient du magistère antérieur de l'Église. Il s'intitulait d'ailleurs « La liberté religieuse ». Pour le cardinal Béa, toutes les religions dans la société temporelle doivent être sur le même pied d'égalité, jouir des mêmes droits, ne subir aucune entrave. Les deux cardinaux s'affrontèrent, la commission préparatoire fut divisée sur la question, mais finalement, c'est le schéma du cardinal Béa qui fut retenu et est à l'origine de la déclaration conciliaire d'Initatis Humanae promulguée par Paul VI le 7 décembre 1965. Or, depuis 2000 ans, la doctrine traditionnelle de l'Église sur la liberté religieuse est parfaitement connue. Il suffit de consulter l'Évangile. En ce qui concerne les religions païennes, nous avons le premier commandement du Décalogue. « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne les adoreras pas, tu ne leur rendras aucun culte. » Et saint Paul ajoute « Les choses sacrifiées par les païens sont sacrifiées aux démons et non pas à Dieu. » Notre Seigneur a affirmé « Je suis la lumière du monde. celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'amasse pas avec moi dissipe. Et saint Pierre ajoute, en parlant du Sauveur, en dehors de lui, il ne faut chercher le salut en aucun autre, car il n'est pas sous le ciel d'autre nom donné chez les hommes par lequel nous devions être sauvés. Cette doctrine évangélique est reprise par les papes. Au XIIIe siècle, Boniface VIII affirme dans sa bulle Unam Sanctam, « La foi nous oblige à croire et à professer une seule Église, sainte, catholique et apostolique, en dehors de laquelle il n'est ni salut ni rémission des péchés. » Grégoire XVI, en plein XIXe siècle, poursuit « Ceux qui ne possèdent pas la foi catholique, ceux qui ne la conservent pas intégralement sans la profaner, périront éternellement. » Du principe totalement corrompu de l'indifférentisme, aujourd'hui on dirait l'œcuménisme, découle cette sentence absurde et erronée, ou plutôt cette folie, qui consiste à revendiquer pour tout homme une absolue liberté de conscience. C'est la raison pour laquelle la Sainte Église a toujours envoyé de multiples missionnaires sur tous les continents, dans tous les siècles. À l'ascension, Jésus-Christ laisse ce dernier commandement à ses apôtres. Allez par le monde, prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Ainsi donc, hors de l'Église catholique, point de salut. Il est certain que les âmes de bonne volonté et qui vivent selon la loi naturelle, même si elles ignorent l'Église catholique, sont dans une fausse religion, pourront être sauvées par une grâce spéciale de Dieu, une grâce extraordinaire. Ce n'est pas par leur religion qu'elles sont sauvées. Leur religion n'est pas un moyen de salut. Le seul moyen ordinaire de salut, c'est l'Église. Si ces âmes parvenaient à la connaissance de la vraie foi, elles seraient bien sûr obligées de la pratiquer pour se sauver. Au contraire, Dignitatis Humanae affirme le droit de la personne humaine à la liberté religieuse doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société, afin de devenir un droit civil. Et donc, en matière religieuse, que personne ne soit empêché d'agir selon sa conscience, en privé ou en public, seul ou accompagné. Il y a donc opposition entre les deux doctrines. La seule religion qui a droit à la liberté religieuse, c'est la vraie religion, fondée par Dieu. En aucune façon, une fausse religion ne peut avoir de droit, tout comme le mensonge, l'erreur, l'immoralité. Seul Dieu et la vérité ont des droits. Depuis le Concile, au contraire, on accepte les fausses religions, on permet que leurs membres diffusent, sans pouvoir être inquiétés nullement, leur doctrine au nom de cette liberté religieuse. En conséquence, le Vatican demanda aux pays catholiques de supprimer dans leur constitution tout ce qui empêcherait la pratique des fausses religions. Cela revient à favoriser le développement des sectes, tels que les témoins de Jéhovah, par exemple. La racine de cette erreur est la vieille idée de Rousseau. La bonté de l'homme. Par eux-mêmes, ceux-ci peuvent parvenir à posséder la vérité. Il faut les laisser chercher en pleine liberté. Ils doivent la trouver infailliblement. C'est oublier le péché originel et la blessure de l'ignorance dans l'intelligence, de la malice dans la volonté, qui incline l'homme vers l'erreur, vers la facilité. C'est une liberté, mais une liberté de perdition. les lois de la société, au contraire, éclairent leur intelligence, fortifient leur volonté, pourront même les contraindre d'une certaine manière à pratiquer le bien et ainsi à sauver leur âme. Jacques Maritain fut le père de cette nouvelle conception. Il faut laisser la liberté à la vie civile, dit-il. En ce qui concerne les choses spirituelles, l'Église doit se contenter de la seule liberté et ne plus exiger que l'État empêche les faux cultes. Le pluralisme religieux de la société est quelque chose de souhaitable. Or, Maritain, que l'on voit ici avec le cardinal Tisserand, est un grand ami de Paul VI. Celui-ci, le 8 décembre 1965, jour de clôture du concile, l'honora publiquement en lui remettant l'un des messages du concile au monde. Dans le syllabus que Pie IX a inséré après l'encyclique Quanta Cura, la phrase suivante est condamnée. Chacun est libre d'embrasser et de professer la religion qu'il croit véritable, guidée par la lumière de la raison. Le père Congar reconnaît que Dignitatis Humanae a changé de point de vue. Il est indéniable, écrit-il, que la liberté religieuse vue par Vatican II n'exprime pas la même chose matériellement que le syllabus de 1864. Elle exprime même le contraire. Le cardinal Ratzinger, tout récemment, déclare dans l'un de ses livres qu'il voit dans le document Gaudium et Spes un contre-syllabus. Et cela, dans la mesure où il représente une tentative pour réconcilier officiellement l'Église avec le monde, comme ce fut le cas après 1789. Le cardinal Swienens avait révélé Vatican II, c'est 1789 dans l'Église. En conséquence, l'esprit missionnaire de l'Église est perdu. Il est inutile en effet d'essayer de convertir les infidèles et les hérétiques si ceux-ci peuvent, sans difficulté, se sauver dans leur propre religion ou simplement avec une bonne foi. La liberté religieuse et l'œcuménisme s'unissent pour donner à toutes les religions des valeurs propres de salut, pour les transformer en moyens de rédemption. Cela explique tous les contacts interconfessionnels qu'il peut y avoir actuellement entre l'Église catholique et les autres religions, mêmes églises ou mêmes temples pour célébrer des liturgies différentes, comme dans le diocèse de Milan par le cardinal Martini. Affirmation par Jean-Paul II que catholiques et musulmans ont le même Dieu en août 1985 au Maroc. Alors que les musulmans refusent la Sainte Trinité et la divinité du Christ. De même, le 9 mai 1985, à Rome, le pape s'adressa aux représentants musulmans et répéta cette affirmation, qualifiant l'islam de véritable voie de Dieu et le Coran d'ouvrage saint. En octobre 1986, les protestants de Thésée reçurent le pape. Il leur déclara entre autres que l'on passe par Thésée comme près d'une source. Béni soit le Christ qui, ici à Thésée, ainsi que dans d'autres lieux de son Église, suscite des sources pour les voyageurs assoiffés de lui. Dans son allocution aux représentants des religions coréennes à Séoul, Jean-Paul II, le 6 mai 1984, « Je désirerais aussi exprimer la grande estime que j'ai pour les millénaires de précieux héritages spirituels et de traditions admirables dont vous êtes les gardiens. J'aimerais saluer spécialement les membres de la tradition bouddhiste qui se préparent à célébrer la festivité de la venue du Seigneur Bouddha, que votre joie soit pleine et votre bonheur comblé. » 27 octobre 1986. Assise. 130 représentants de religions chrétiennes et non chrétiennes, sont ensemble pour prier sous la présidence du pape Jean-Paul II. Prier pour la paix. Une paix sans notre Seigneur Jésus-Christ, sans sa vérité. La paix du monde. Ce n'est pas le Dieu trinitaire par l'intermédiaire de son Église, mais ce sont toutes les idoles, tous les dieux, qui vont être honorés dans les églises de la ville. Aucune messe ne sera célébrée ce jour-là. Comment concilier cet événement avec les paroles de l'apôtre saint Paul « N'ayez aucun désir de vous unir aux infidèles ». En effet, quel lien y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quelle amitié peut-il y avoir entre la lumière et les ténèbres? Quelle entente entre le Christ et Bélial? Que peut partager le fidèle avec l'infidèle? Quelle consonance entre le temple de Dieu et les idoles? Dans l'église Saint-Pierre, un autel fut proposé au Dalai Lama et à ses disciples bouddhistes. Ils placèrent une statue de Bouddha sur le tabernacle. Aux prétentions du démon, notre Seigneur opposa « Arrière Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui ». Ne vous laissez pas tromper comme tant d'autres, après 1000 expériences désastreuses, par la vaine illusion qui vous fait croire que vous gagnerez l'adversaire en le suivant et en l'imitant. Culte des Shintoïstes. Chapelle catholique accordée aux hindouistes. La prière des Japonais. Indiens d'Amérique pratiquant leur rite païen sur un prêtre catholique. À 2h de l'après-midi, les groupes religieux retournèrent à la place intérieure. Et un par un, à tour de rôle, ils récitent une prière à leurs dieux respectifs pour demander la paix. Dans la Somme théologique, saint Thomas d'Aquin affirme « La prière adressée aux fausses divinités ou animée par des opinions religieuses opposées, en tout ou en partie, à la révélation divine, n'est pas un acte de culte, mais de superstition. Elle n'honore pas Dieu, mais l'offense, du moins objectivement, et constitue un péché contre le premier commandement. Cette réunion rappelle l'idéal franc-maçon qui veut réaliser l'union de toutes les religions dans une espèce de fraternité universelle. Un panthéon de toutes les croyances. Le seul lien des religions à Assise demeure un lien humain. La Révolution française s'est inspirée de cet idéal et actuellement, l'humanisme régnant dans le monde moderne s'en inspire également. L'Église d'après Vatican II, en particulier dans cette réunion d'assises, confirme ses principes de saveur maçonnique. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de toutes choses, proclame saint Paul. Une seule voie de salut. Omnes dii gentium demonia. Les dieux des nations sont des démons, dit le psautier. Raison de plus pour repousser ce genre de réunion condamnée auparavant par les papes. Pie XI, le 8 juillet 1927, par la voix du Saint-Office, interdit aux catholiques de participer à de telles réunions qui favorisent l'indifférentisme religieux. Ainsi, l'événement d'Assise montre clairement le déclin de l'Église qui se laisse entraîner par l'apostasie des peuples modernes. Aussi grave que la réunion d'Assise, mais cette fois-ci dans le domaine de la liberté religieuse. les nouveaux concordats entre le Saint-Siège et les gouvernements catholiques après 1970 expriment bien comment l'esprit du monde a pénétré dans la mentalité des chefs de l'Église. Avec l'Italie, par exemple, le concordat fut signé le 18 février 1984 entre le cardinal Casaroli et le socialiste Craxi. D'un commun et pacifique accord, la séparation de l'Église catholique et de l'État italien a été réalisée pour la première fois depuis 17 siècles. Désormais, l'Église italienne est reléguée à la place humiliante des fausses religions. Cette séparation entre l'Église et l'État dans les nations catholiques est le fruit logique de la liberté religieuse de Vatican II. Les gouvernements qui se voudraient catholiques sont un obstacle à la liberté individuelle, à l'épanouissement de la conscience humaine qui seule doit choisir une religion, même fausse. C'est évidemment un grave scandale. Le Vatican lui-même insista auprès des gouvernements catholiques d'Espagne, de Colombie, d'Irlande, des cantons suisses pour laïciser leur constitution et refuser à l'Église catholique la primauté. Le lendemain de la signature du concordat italien, Jean-Paul II déclara publiquement qu'il considérait ce concordat comme une inspiration idéale de l'apport généreux et créatif que la communauté ecclésiale est appelée à prêter pour le bien moral et le progrès civil de la nation. Jamais les papes précédents du XIXe ou du XXe siècle n'auraient enseigné de telles choses. Ainsi, Léon XIII, dans son encyclique Immortale Dei, « Les États ne peuvent, sans devenir coupables d'impiété, se comporter comme si Dieu n'existait pas, et négliger la religion comme si elle était chose étrangère et sans importance, et en adopter indifféremment une parmi les nombreuses existantes. Ils ont au contraire l'obligation d'honorer Dieu dans la forme et la manière que lui-même a voulu. » Saint Pie X, dans son encyclique Vehementer, « C'est une thèse absolument fausse, et une très dangereuse erreur que de penser qu'il soit nécessaire de séparer l'État de l'Église. Cette thèse est absolument injurieuse pour Dieu, puisque le Créateur de l'homme est aussi fondateur de la société humaine. C'est pourquoi nous lui devons non seulement le culte privé, mais encore un culte social et des honneurs publics. » Jésus-Christ n'est pas roi à demi. Personne ne peut se soustraire à son joug. Ni les sciences, ni les arts, ni les lois, ni les nations, ni les individus. L'union de l'Église et de l'État est voulue par Dieu pour l'épanouissement des âmes. Non seulement pour les temps passés, mais aussi pour notre époque contemporaine, elle demeure obligatoire, utile, réalisable. Ainsi, Pie XII bénit un ancien président italien. La société civile et l'Église ne sont pas opposées, mais au contraire, vivent en parfaite harmonie. La société temporelle est le marchepied de la société. Au contraire, dans l'Observatore Romano du 24 août 1969, le pape Paul VI déclare « La nouvelle position adoptée par l'Église à propos des réalités terrestres est maintenant bien connue de tous. Le nouveau principe très important dans la pratique est le suivant. L'Église accepte de reconnaître que le monde peut se suffire et elle ne cherche plus à faire de lui un instrument pour ses fins religieuses. » Tout comme dans le domaine de la théologie et des institutions, Vatican II inaugure une nouvelle pratique. Cette réforme liturgique post-conciliaire est d'un esprit œcuménique. Bunini, auteur de la Nouvelle Messe, écrit en mars 1965 « Il faut ôter de notre liturgie tout ce qui garde l'ombre d'une aspérité contre le protestantisme. » La loi de la prière, c'est la loi de la foi. La liturgie exprime la foi catholique. diminuer, modifier, mutiler, transformer la liturgie, c'est toucher à la foi catholique. En son centre se trouve la Sainte Messe, le sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ, offert sur nos autels, sous les espèces du pain et du vin, en mémoire du sacrifice de la croix. Ce sacrifice est substantiellement le même que celui de la croix, mais il diffère dans la manière dont il est offert. Effectivement, Jésus-Christ est mort une fois pour toutes sur la croix. Mais ce sacrifice se perpétue tous les jours, de manière non sanglante, permettant aux hommes de tous les temps de s'unir à la rédemption. On l'offre pour adorer Dieu et lui procurer une gloire infinie. On l'offre aussi pour le remercier des bienfaits accordés dans sa largesse infinie. On l'offre pour obtenir toutes les grâces nécessaires au salut. On l'offre enfin pour obtenir la rémission de tous nos péchés. Ainsi, la messe glorifie Dieu Tout-Puissant et honore tous ses amis, la Très Sainte Vierge, les anges, tous les saints. Elle fait du bien abondamment aux vivants, elle soulage les fidèles défunts qui sont encore au purgatoire. La messe, c'est le centre de la vie de l'Église. La messe, nous dit notre Seigneur, c'est le testament en mon sang. Elle sera offerte tant que l'Église existera, jusqu'à son retour glorieux. Sans la messe, l'homme est coupé de Dieu. Il ne peut d'aucune manière se rendre agréable à lui. La messe papale, le jour de Pâques, selon le rite traditionnel. La messe est l'expression de la transcendance de Dieu et assure la rédemption des hommes. Toute la foi catholique est contenue dans la messe. C'est pourquoi les hérétiques, dès le début, ont toujours attaqué la messe, l'ont modifiée. Luther, d'emblée, essaya de la détruire. Don Guéranger disait « Tout sectaire voulant introduire une nouvelle doctrine se trouve inévitablement en présence de la liturgie qui est la tradition dans son plus haut degré. Et il ne trouvera de repos que quand il sera parvenu à faire taire cette voix et qu'il aura arraché ces pages qui expriment la foi des siècles passés. » La messe de rite latin est fixée dès la fin du 5e siècle. Sur ce tronc commun, quelques particularités liturgiques ont fleuri au cours des âges. Mais le texte, l'ordre, la disposition de la Sainte Messe ont toujours été considérés comme une tradition sacrée, intangible. Avec l'avènement du protestantisme, la scène, le culte, a remplacé la messe. Le Concile de Trente répandit alors dans tout l'Occident latin la messe romaine, la messe papale. Il restaura ainsi le missel, supprimant toutes les particularités secondaires et revenant à la pureté originelle du rite romain exemplaire. Saint Pie V, promulguant le nouveau missel romain, n'inventa pas une messe, ne la changea même pas. Il étendit la messe de Saint-Pierre à toutes les églises de la chrétienté. Sa bulle, quo primum tempore, restaure, dit-il, le missel selon la norme primitive et le rite des saints-pères. Que l'on n'ajoute rien, que l'on ne supprime rien ou que l'on ne change rien, jamais à cette messe. Nous le statuons, l'ordonnons au moyen de cette constitution valable à perpétuité et sous peine de notre indignation. Si quelqu'un osait l'attaquer, il encourra l'indignation du Dieu Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. Avec la messe, la liturgie contient les sacrements et la prière publique du bréviaire. Ce sont les plus grands trésors de l'Église. Pour cette raison, la liturgie a toujours été entourée d'une grande vénération, d'un grand zèle pour sa conservation. Elle est l'expression de la foi priante, de la tradition de 2000 ans d'histoire de l'Église. Personne ne l'a inventée. Elle est l'œuvre patiente de l'Église animée par le Saint-Esprit, lequel l'a modelée, enrichie et perfectionnée lentement à travers les siècles. Vatican II considéra que le monde moderne avait de nouvelles exigences, que la tradition multiséculaire de l'Église n'était pas adaptée à l'homme et qu'il fallait pour cela modifier de fond en comble non seulement les rites, mais l'esprit même de la liturgie. Méprisant les avertissements de Saint Pie V ou de Pie XII, la liturgie post-conciliaire voulut être œcuménique pour favoriser le rapprochement avec les chrétiens d'autres confessions. Paul VI promulguait la constitution apostolique Missale Romanum le 3 avril 1969. Il réformait le rite de la messe tridentine et introduisait un nouvel ordo missae. Cette réforme suscita des réactions. Les cardinaux Ottaviani et Bacci, au mois de septembre suivant, écrivent au pape une lettre ouverte, le bref examen critique du nouvel ordo missae. Elle expose les graves carences et déviations du nouveau missel. Le nouvel ordo missae s'éloigne de façon impressionnante, dans l'ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la Sainte Messe telle qu'elle fut formulée lors de la 22e session du Concile de Trente. Cette supplique n'eut aucun effet pratique. Les vérités du catéchisme continuèrent d'être méconnues par le nouveau rite. La signification théologique des cérémonies a été changée. Le vague, l'équivoque, l'ambigu remplace la clarté de la messe traditionnelle. Ce n'est pas un hasard. Si Paul VI voulut se faire photographier le 10 avril 1970 avec les 6 pasteurs protestants qui avaient collaboré à l'élaboration de la nouvelle messe. La nouvelle messe est d'esprit protestant. Elle se situe entre le sacrifice catholique et la scène réformée. Les protestants disent que la messe n'est qu'un mémorial, la scène du Seigneur, offerte en action de grâce. À la rigueur, c'est un sacrifice de louange. En aucun cas, ce ne peut être un sacrifice propitiatoire qui efface les péchés du monde. Or, dans la nouvelle messe, on a supprimé les parties de l'offertoire faisant référence à la victime du sacrifice, notre Seigneur Jésus-Christ, et à la fin propitiatoire de la messe. Ainsi, sans victime, la messe perd son caractère sacrificiel. Elle se réduit à une simple présentation d'offrande. Il n'y a plus de sacrifice de l'Église. La nouvelle messe se situe entre le sacerdoce ministériel catholique, d'une part, et le sacerdoce de l'Assemblée protestante, d'autre part. L'Église catholique enseigne en effet que le prêtre est le seul ministre de la Sainte Messe. Il se distingue essentiellement des fidèles. Les protestants, au contraire, nient le sacerdoce hiérarchique, affirment que tous les baptisés sont prêtres et que le célébrant n'en est que le représentant. Le nouvel ordo missae confond le sacerdoce hiérarchique et le sacerdoce des fidèles. Il rend l'assemblée uniforme. L'autel n'est plus qu'une table. Le prêtre est face au peuple, souvent aidé par des laïcs pour les lectures, pour la distribution de la communion. Les vêtements sacerdotaux deviennent de simples accessoires. L'oraison eucharistique devient une simple raison présidentielle. La nouvelle messe se situe aussi entre la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie et une présence purement spirituelle, de type protestante. Dans la théologie catholique, notre Seigneur Jésus-Christ est réellement présent dans l'hostie, avec son corps, son âme, son sang et sa divinité. C'est la raison pour laquelle le précieux sang et la sainte hostie ont été vénérés d'un culte de latrie, c'est-à-dire un culte réservé à Dieu. Jésus-Christ est au centre de l'Église, conservé au tabernacle. Cette présence réelle est une présence permanente. La génuflexion des fidèles devant la sainte réserve exprime cette adoration rendue à Dieu, réellement présent parmi nous. Au contraire, pour les protestants, il n'y a pas de présence réelle. Ou du moins, celle-ci ne dure que le temps de la messe. Cette présence est liée à la foi du fidèle et non plus à la consécration et à l'hostie. Elle est donc purement spirituelle. L'hostie demeure un morceau de pain habité par Jésus-Christ, habité par une certaine présence du Christ. Dans la nouvelle messe, la doctrine sur la Sainte Eucharistie se trouve extrêmement atténuée. On y supprime presque tous les signes d'adoration, toutes les cérémonies qui ont pour but de rappeler cette présence réelle objective du Seigneur. Les génuflexions du prêtre ont été réduites à trois. La purification des doigts du prêtre, la purification des vases sacrés après la communion deviennent secondaires. Il n'y a plus de prescription pour le cas où une hostie tombe à terre. Cette présence de Jésus-Christ est exprimée même de façon équivoque dans les textes de la messe. Et puis, l'autel a été dépouillé de son tabernacle. Se trouve contredit là l'affirmation de Pie XII. Ces deux choses doivent, par leur propre nature, rester unies. La communion à genoux des fidèles, d'usage traditionnel, a été supprimée, malgré ce que disait l'apôtre saint Paul, « Au nom de Jésus-Christ, que tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et en enfer. » Ces réformes ouvrirent la porte aux pires abus, distribution de la communion par des femmes, communion dans la main, alors que seules les mains du prêtre sont consacrées le jour de leur ordination pour pouvoir offrir le saint sacrifice, donner la sainte hostie en communion. Toute parcelle de la sainte hostie recèle la présence réelle. Celle qui reste sur les mains des fidèles ou qui tombe par terre seront piétinées. C'est là un manque certain de sens sacré. Jadis, un plateau était prescrit sous le menton des communiants pour éviter la profanation de ces particules. Alors que saint Jean-Baptiste estimait indigne de dénouer la courroie des sandales de Jésus-Christ, on n'hésite pas aujourd'hui à profaner le corps de notre Seigneur en le recevant dans ses mains. C'est assurément un geste d'orgueil. Saint Thomas d'Aquin affirme « Le corps du Christ appartient au prêtre, qu'il ne soit touché par aucun homme non consacré. » Et le Concile de Trente déclare « La communion donnée uniquement par le prêtre, dont les mains sont consacrées, est d'une tradition apostolique. » La nouvelle messe, en vulgarisant les choses saintes, entraîne inévitablement une perte de la foi en la présence réelle. Le pape Pie XII, toujours dans son encyclique sur la liturgie, Mediator Dei, condamnait ces innovations liturgiques, autel sous forme de table, disparition des représentations du Christ sur la croix, élimination des images et des statues dans les églises, suppression des ornements de couleur noire, toutes choses qui ont été introduites depuis 30 ans dans l'Église. Ces réformes ressemblent de près à la liturgie anglicane de l'hérétique Cranmer. Il en résulte que les protestants n'hésitent plus à célébrer la scène avec la liturgie du nouvel ordo missae, comme en témoigne Max Turian en avril 1969, le professeur Siegwald ou Roger Mell en septembre 1970. Le latin, la langue sacrée liturgique, est remplacé par la langue de tous les jours, la langue vernaculaire, celle des fidèles. Les cantiques d'autrefois, qui exprimaient la croyance populaire, ont été remplacés par des chants fortement inspirés du protestantisme, sans spiritualité, sans élévation de l'âme. L'Église n'est plus un lieu de prière et de recueillement. Ainsi, dans la basilique d'Assise, un concert jazz en l'été 1988, ou encore dans la cathédrale Saint-Patrick à New York, interprétée par le musicien Lou Williams. Dans l'église de l'Oratoire, à Rome, en avant-première, l'exécution d'une messe beat en avril 1964. Ici, le père Tomlinson, aumônier du séminaire de Saint-Laurent, est en train de célébrer la messe. Ces abus liturgiques se multiplient dans le monde, sans qu'aucune directive ne vienne de Rome pour corriger les réformes qui en sont la cause. La sœur Tina Bernal est en train de danser pendant une messe célébrée par les pères jésuites. Ici, une célébration en plein air pour les jeunes. Une messe ballet. Les jeunes de la JOC sont en train de fêter l'Eucharistie. Cérémonie des évêques français à Lourdes. Messe pour les petits-enfants, à laquelle ils peuvent participer comme si c'était un simple repas. Les innovations liturgiques les plus avancées sont réalisées sous couvert d'inculturation, c'est-à-dire que l'on prétend relever les éléments de chaque peuple susceptible de servir au culte. Ici, un prêtre célèbre avec un panache d'Indiens américains. En Nouvelle-Guinée, Jean-Paul II célèbre la messe le 8 mai 1984 et une femme à moitié nue lit l'épître. Messe du pape à l'occasion de son voyage dans les îles Fidji avec Turi Ferrer. Femme aborigène au congrès eucharistique de Melbourne pendant la liturgie en 1973. Notre Seigneur avait averti « Ma maison est une maison de prière » et vous en avez fait un repère de brigands. En résumé, la différence fondamentale entre la messe dite de Paul VI et la messe tridentine, c'est que l'une est horizontale et s'adresse à l'homme, alors que l'autre est de dimension verticale et s'adresse à Dieu. Avec la messe, les sacrements ont connu une réforme. Le baptême en tout premier lieu. Il est la porte du ciel, chargée d'effacer le péché originel, de rendre la grâce divine, d'imprimer dans l'âme un signe indélébile que l'on appelle le caractère baptismal. Il nous rend conformes à Jésus-Christ. Dans le nouveau rituel du baptême, cette valeur purificatrice est mise sous silence avec la suppression des exorcismes qui chassent la présence du démon. On insiste beaucoup plus sur la valeur sociale, sur un rite initiatique, un accueil dans la communauté ecclésiale. pour le sacrement de confirmation qui nous fait soldats du Christ, qui imprime là aussi un caractère sur l'âme. La cérémonie ne fait rien de plus que confirmer cette initiation baptismale. Jugée de superficielle, elle est de plus en plus abandonnée. Elle risque d'ailleurs souvent l'invalidité, puisque à l'huile d'olive, nécessaire pour confectionner le Saint-Crème, porteur du sacrement de confirmation, on substitue n'importe quelle huile, changeant ainsi la matière du sacrement. Le sacrement de pénitence a tendance à se transformer en un dialogue. Dialogue entre le pécheur et le prêtre. Prêtre qui souvent trouve des circonstances atténuantes aux péchés même les plus graves. Les prêtres, prenant à la légère ce sacrement, éloignent souvent les âmes du confessionnal. La généralisation des absolutions collectives, et qui sont invalides en dehors du cas de nécessité, comme d'une armée montant au front ou d'un bateau en train de couler, pousse les fidèles à se passer de l'aveu des péchés au confessionnal. C'est là aussi un trait typique de mentalité protestante. Le sacrement de l'ordre, qui donne des pouvoirs sur le corps mystique de Jésus, c'est-à-dire sur l'Église, pour la distribution non seulement de la doctrine, mais aussi de l'essentiel des sacrements de salut, a été transformé dans sa conception. L'ordre imprime un caractère dans l'âme qui rend le prêtre essentiellement différent des laïcs. Cette différence est minimisée dans l'Institutio Generalis de 1969 qui promulgue la nouvelle messe. Le prêtre n'est qu'un président. Il n'est pas de nature différente. De même, toutes les préparations liturgiques qui soulignaient la séparation du prêtre d'avec le monde ont été gommées. La tonsure, les ordres mineurs de portier, lecteur, exorciste, acolyte, le sous-diaconat. Une tradition remontant au IIe ou au IIIe siècle de l'Église latine a ainsi disparu. Il ne reste plus maintenant que deux ministères, le diaconat et la prêtrise. Et le diaconat lui-même peut être administré à des hommes mariés. C'est rompre avec la pratique latine du célibat sacerdotal qui remonte, dit-on, à saint Pierre et saint Paul eux-mêmes. Le sacrement de mariage lui-même a été atteint. Il unit un homme et une femme indissolublement et leur donne la grâce pour vivre ensemble, saintement, et éduquer chrétiennement leurs enfants. La fin première et essentielle du mariage, c'est la procréation, la mise au monde des êtres humains et leur orientation vers le ciel. À cette fin essentielle, le soutien mutuel des époux vient s'adjoindre pour faciliter sa réalisation. Or, le document Gaudium et Spes place ces deux fins sur un pied d'égalité, ce qui signifie que l'Église, enseignant le contraire, se serait trompée jadis sur cette doctrine. C'est là un dérapage qui peut amener à inverser les deux finalités, voire même à faire disparaître la seconde. On le voit dans le laxisme moral actuel, qui permet si facilement, même en milieu catholique, l'usage de la contraception, qui mènera inévitablement à celui de l'avortement. Le cardinal Gagnon, lui-même, président du Conseil pontifical pour la famille, a recommandé en juillet 1986 des méthodes de régulation des naissances expressément condamnées par le pape Pie XII. plus grave peut-être, à propos du lien du mariage. La tendance actuelle est à dire que le lien se construit chaque jour. Et donc, lorsque la division s'installe dans le foyer, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de mariage. De nombreuses officialités diocésaines accordent aujourd'hui facilement des dispenses de mariage. Enfin, depuis le 31 mars 1970, les mariages entre catholiques et protestants ou même schismatiques ont été rendus permis sans que la partie non catholique n'abjure son erreur. Cela signifie que les enfants, et même que le conjoint catholique, sont dans une ambiance contraire à leur foi. C'est là un grave risque pour leur conviction. L'extrême onction est le sacrement qui nous ouvre la porte du ciel. Il soulage spirituellement et temporellement même les malades en danger de mort. Aujourd'hui, des abus en font un sacrement des vieux, administré de façon collective à des personnes qui ne sont pas vraiment en danger de mort, mais ont simplement dépassé une limite d'âge. Ces extrêmes onctions sont invalides. Dans la discipline sacramentelle, il n'y a pas que les rites qui ont été modifiés. Le droit canon, dans son numéro 844, permet aux schismatiques et aux protestants de recevoir les sacrements de pénitence, d'eucharistie et d'extrême-onction, sans avoir à abjurer leur erreur. Il y a là pure profanation des sacrements catholiques, car ceux-ci ne sont destinés qu'aux seuls membres de l'Église du Christ. Cette intercommunion entre ministres catholiques et fidèles non catholiques font tomber un peu plus les barrières qui séparent la véritable Église du reste des religions chrétiennes. Ainsi, le pasteur Max Turian, de la communauté protestante de Thésée, fut ordonné prêtre par le cardinal Ursi de Naples en 1988, sans avoir abjuré, ni avant ni ensuite, ses erreurs protestantes.